Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal de Grâce Hamzati Masanzi.
Au Nord Kivu, les forces armées de la RDC et le M23 se disputent le contrôle de la commune rurale de Kanyabayonga, territoire des Lubero. Depuis 6 jours, des violents combats opposent ces belligérants à plus ou moins 6 km au sud-ouest de cette entité. Mais quelle est l'importance stratégique de Kanyabayonga? Martial Papi Mukeba nous en parle à l'ouverture de ce journal. Plus de 6000 ménages des déplacés du site de Kigonze et de l'ISP Bunia Anituri bénéficient d'une quantité importante de vivres donnés par l'entreprise Mogabaon. Selon le responsable de cette structure, ces gestes caritatifs visent à réconforter ces familles en détresse. Notre invité est le coordonnateur national de l'ONG Congo Action et modérateur de la synergie de protection des défenseurs des droits de l'homme dans la province du Maniema. Raphaël Mutianga Kaloumé parle des rencontres organisées par cette synergie avec les autorités politico-administratives sur les fondamentaux des droits de l'homme notamment. Madame, messieurs, bonsoir. Ce journal part du Nord Kivu, où les FRDC et le M23 se disputent depuis 6 jours le contrôle de Kanyabayonga. En effet, des violents combats opposent l'armée aux rebelles à Butalongola, à plus ou moins 6 km au sud-ouest de cette commune rurale du territoire de Lubero. Martial Papi Mukeba nous parle de l'importance stratégique de Kanyabayonga.
Avec une population estimée à plus de 80 000 personnes, la commune rurale de Kanyabayonga est située à la limite entre les Grands Nord qui couvrent la région de Beni, Butembo et Lubero et les territoires de Rutshuru sous occupation des rebelles du M23. Dans sa partie sud, Kanyabayonga, qui est sur une colline, donne une vue panoramique sur le parc national de Virunga et ouvre la voie à une dizaine de kilomètres de Rwindi. Cette station de l'ICSN sous l'occupation rebelle depuis quelques mois dispose d'un aérodrome et permet de contrôler 3 axes, Rwindi Mabenga Kiwanja, Mabenga Vichumbi et Rwindi Kibirizi. Du côté nord, à partir de Kanyabayonga, on a également une voie ouverte et par route vers les agglomérations de Kirumba et Kaina ainsi que les grandes villes de Butembo et Beni. Le contrôle de Kanyabayonga permet donc d'avoir une facilité de bouger son dispositif militaire vers les Grands Nord et les Petits Nord, ainsi que protéger ses arrières. Jusqu'à ce samedi, dans la matinée, la position avancée des rebelles du M23 se trouve à 6 km au sud-ouest de cette commune rurale. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Merci à vous, Martial Papi Mukeba. Signalons toutefois que la MONUSCO vient de renforcer sa présence à Kanyabayonga pour aider l'armée à faire face à l'avancée des rebelles du M23 vers cette localité. Des casquets bleus de la brigade et de la force d'intervention rapide ont été déployés sur place hier pour protéger les civils et en appui aux forces armées de la RDC. Selon des sources militaires, une réunion de coordination des opérations entre les deux forces a eu lieu ce samedi. Signalons par ailleurs qu'un calme précaire est observé depuis ce matin à Kanyabayonga, une commune rurale presque vidée depuis jeudi de sa population. Les FRDC et les casquets bleus mènent des patrouilles dans la zone. Dans l'actualité, sachez aussi que les staffs locaux et internationaux de la MONUSCO Sud Kivu se sont dit au revoir hier à Muumba dans la soirée. Un moment de partage et de réjouissance marqué par des émotions. C'est à l'occasion de la fermeture du bureau de la mission des Nations Unies dans cette province. La séparation déjà évidente ne semble enchanter personne, que ce soit du côté congolais ou du côté expatrié. Ils ont pour la plupart totalisé une 20aine d'années au service de la mission de maintien de la paix en RDC. Jean Kassami a couvert cet événement pour Radio Kapi.
Tous les mots de circonstance et témoignages prononcés au cours de la soirée de partage et de revoir étaient émouvants. Floribert Bayongwa, représentant du staff de la MONUSCO Sud Kivu.
La décision prise par notre gouvernement de demander le départ de la MONUSCO ici et maintenant aura certainement des conséquences. D'ici là, des milliers d'enfants commenceront à nous poser des questions le matin. Papa, Léo a tout à coup là.
Une porte qui se ferme peut occasionner l'ouverture d'une dizaine d'autres, renchérit les représentants du personnel international Émile Ada.
Comme vous savez, les missions des Nations Unies n'ont pas vocation à être éternelles. Donc, il était prévu que la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo finira un jour. Donc, elle est en train de prendre fin.
L'expérience accumulée au sein de la mission des métiers de la paix en RDC est une opportunité d'ouverture de nouveaux horizons. Propos du représentant du gouvernement provincial, Sisawa Numbe.
On avait organisé une sorte de cérémonie d'opportunité d'emploi. Il y avait les agences, il y avait aussi d'autres institutions.
Plus de 5000 agents se séparent contre leur gré de la MONUSCO au site Kivu. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Nous le disions dans les titres, en Ituri, plus de 6000 ménages des déplacés du site de Kigonze et de l'ISP Bounia ont bénéficié hier d'une importante quantité de vivres, composés de la farine de maïs, du riz, des haricots ainsi que d'huile végétale. Ces dons est l'œuvre de l'entreprise Mogabaon qui se charge de la réhabilitation des voiries urbaines. Selon le responsable de cette structure, l'objectif est d'apporter du réconfort à ces familles qui vivent dans la précarité. À Bounia, Ezekiel Mouzalia.
Ce don est composé essentiellement de 25 kg de farine, 12 kg de riz, haricots, 5 litres d'huile végétale, ainsi que du sel de cuisine distribué à chaque ménage hébergé dans ces sites. Selon le comité des déplacés du site de Kigonze, cette assistance tombe à point nommé, surtout en cette période où le site fait face à d'énormes défis sur la prise en charge alimentaire et sanitaire. Une bénéficiaire exprime sa gratitude.
Nous les déplacés, nous souffrons beaucoup dans ces sites. J'ai reçu 5 litres d'huile, farine, haricots. Nous avons d'autres difficultés. Nos toilettes sont déjà remplies. Nous voulons rentrer dans nos villages.
Présent à cette cérémonie de distribution des vivres, le gouverneur de province salue ce geste de générosité de cet opérateur économique. Selon lui, ce geste est un signal fort au gouvernement de l'état de siège de rétablir la paix en province pour permettre à ses habitants de retourner dans leur milieu d'origine. Le général Johnny Luboyankashama.
C'est une question de cœur. Vraiment, je tiens à remercier Mogabaon pour ce geste combien louable. Donc aujourd'hui, c'est un message fort pour nous de les retourner chez eux à la maison. Voilà.
Notez que cette campagne de distribution des vivres se poursuit jusqu'à la semaine prochaine. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Parlons de la journée internationale des sages-femmes célébrée au Maniema ce vendredi le 31 mai. Les sages-femmes réunies au sein de la Société congolaise de la pratique sages-femmes, SCOSAF Maniema, ont sensibilisé différentes couches de la population sur la valeur de leur profession. Annie Kamwanya Manassé nous explique au micro de Florence Kizalunga.
En ce qui concerne l'activité réalisée, nous avons beaucoup plus martelé sur la vulgarisation de la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des sages-femmes en République démocratique du Congo. Notre objectif dans la vie professionnelle est de sauver des vies humaines. Donc cela veut dire que nous avons toute obligation de sauver et la mère et l'enfant. Donc la mère ne doit pas mourir en mettant au monde et aussi l'enfant ne doit pas aussi mourir en venant au monde. Donc, telle est l'obligation de toute personne qui fait la profession sage-femme. Et c'est ce qu'on a interpellé à toute sage-femme de prendre en considération sa profession et aussi de voir combien de fois la profession est noble. Et nous devons tous faire un effort de respecter la loi et le règlement aussi intérieur.
Par ailleurs, au Kasaï-Oriental, le député national honoraire Ntumba Tshabola Bintou appelle la justice à appréhender, juger et condamner les auteurs du meurtre les jeudis d'une femme d'une trentaine d'années dans le territoire de Katanda. Dans une déclaration aujourd'hui ici à Radio Kapi, il appelle aussi le gouvernement à imposer la paix pour que les différentes communautés puissent vivre en paix. On écoute Ntumba Tshabola Bintou au micro d'Alain Irung.
Nous demandons aux autorités politico-administratives, sécuritaires ainsi que judiciaires au niveau local, territorial, provincial et national de renforcer les mesures sécuritaires dans les territoires de Katanda et principalement dans les secteurs de Balubalu-Bilanji. D'arrêter, juger et condamner tous les semeurs de troubles, les criminels ainsi que les commanditaires impliqués de l'un ou de près dans cet assassinat. Il est impérieux de rappeler que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage à Mbujimayi, au mois de décembre 2023 pendant la campagne électorale, avait publiquement fustigé ce genre de comportement honteux et criminel de s'entretuer pour des causes communautaires et avait appelé toutes les communautés à vivre en paix dans l'harmonie dans les territoires de Katanda. Il est temps que l'État congolais impose la paix dans les territoires de Katanda. L'état de dialogue et autres négociations étant révolu et n'a rien donné, nous demandons au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, récemment nommé, de mettre en œuvre notre requête de création de nouvelles villes dans la province du Kassai Oriental pour que Katanda soit une ville pour mettre fin aux multiples conflits intercommunautaires inutiles qui endeuillent notre territoire.
Autre aspect d'actualité, le monde a célébré ce vendredi 31 mai la journée sans tabac. À cette occasion, une conférence débat a été organisée hier par le ministre de la Santé publique en collaboration avec la Direction nationale au programme de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques ici à Kinshasa. Objectif, démontrer par des preuves tangibles que les industries du tabac ont aussi ciblé les enfants. Reportage de Moïse Lindombe, rendu par Jude Mister Bilanda.
C'est dans les bâtiments qui abritent les programmes nationaux de lutte contre la toxicomanie et PNLCT en sigle dans l'enceinte de l'Institut supérieur des techniques médicales que s'est déroulée cette activité en présence du directeur des cabinets du ministre de la Santé publique, du bourgmestre de la commune de Kassavubu, du directeur de PNLCT et des différents invités. Un plaidoyer fiscal sur les tabacs en RDC a été fait par les intervenants. Monsieur Patrice Milombo, directeur de PNLCT, revient sur les conséquences mortelles de la pandémie du tabagisme et des précautions prises pour la prévenance de la consommation en RDC chez les enfants de 13-15 ans.
Un cerveau qui est déjà au bas âge dépendant devient accro. Et c'est ce qui est très dangereux. Et c'est ça, l'industrie fait tout pour qu'il recrute de nouveaux consommateurs qui sont les jeunes. Comme ça, il a un nombre important de consommateurs demain. Nous avons beaucoup de précautions. La première précaution, c'est d'abord communiquer pour changer le comportement.
Il faut noter que les statistiques soulignent les besoins urgents des politiques visant à protéger les jeunes des tactiques de l'industrie du tabac et à réduire la mortalité et la mobilité liées au tabagisme.
Et puis, le service national a remis hier 500 bancs à l'université de Kinshasa sur un lot prévu de 2000. Ces bancs ont été fabriqués par les bâtisseurs, ces anciens délinquants communément appelés Kuluna. Le commandant du service national loue les efforts fournis par le président de la République pour aider ces jeunes à se réinsérer dans la société en se rendant plus utiles. Pour sa part, le recteur de l'université de Kinshasa, au-delà de la reconnaissance, salue un partenariat durable avec le service national. On écoute tour à tour le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabouik et le professeur Jean-Marie Kayembe dans ses propos recueillis par Alain Irunga.
L'université de Kinshasa recevra un total de 2000 bancs, soit 10 000 places, dont 500 bancs sont remis aujourd'hui. Les autres lots suivront progressivement chaque semaine. Il vous souviendra que lorsqu'en 2020, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait décidé de confier ces bandits urbains au service national en vue de leur encadrement, personne n'y croyait. Ils sont là, bien vivants et transformés. Ils ont été formés au métier et sont utilisés par le service national dans ses chantiers et ateliers.
Distribuer des bancs, c'est assurer des conditions d'apprentissage optimales à la jeunesse congolaise. Chaque fois qu'on se mettra dessus, on se dira « l'homme est totalement transformable ». Voilà la raison de cette joie et du partenariat que nous vous annonçons, l'Université de Kinshasa, celle, signe, actualise avec le service national pour une transmission des expertises dans les deux sens.
Actualité internationale.
Alors que le décompte des voix des élections générales de mercredi en Afrique du Sud est quasiment bouclé à 97,7%, les résultats confirment les désamours des électeurs pour le parti au pouvoir. Le Congrès national africain ANC reste le premier parti du pays, mais est fortement sanctionné. La formation de Cyril Ramaphosa n'obtient que 40% des suffrages. Il perd ainsi sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, soit du jamais vu depuis la fin de l'apartheid. La Russie a tiré plus d'une centaine de missiles et de drones sur des infrastructures essentielles et des centrales électriques en Ukraine durant la nuit de vendredi à ce samedi, déclare l'armée de l'air ukrainienne. L'ennemi a lancé 53 missiles de divers types et 47 drones d'attaque, selon l'armée de l'air ukrainienne, ajoutant avoir abattu 35 de ces missiles et 46 drones.
L'invité.
C'est Raphaël Mutyanga Kalume, coordonnateur national de l'ONG Congo Action et modérateur de la synergie des protections des défenseurs des droits humains. Il nous parle de cette série de rencontres organisées par sa plateforme avec les autorités politico-administratives du Maniema sur les fondamentaux des droits humains, le rôle et la mission des défenseurs des droits de l'homme et les obligations des autorités en cette matière. Il s'entretient à Kindu avec Florence Kizalonga.
Monsieur Raphaël Mutyanga, bonjour.
Bonjour madame.
Pourquoi votre plateforme Synergie de protection des défenseurs des droits de l'homme ces derniers temps multiplie des activités avec les autorités locales?
Oui madame, nous sommes en train de multiplier les contacts avec les autorités publiques. Nous avions reçu le financement du fonds en cascade par FDAPID et via le consortium PPDDH-RDC avec l'appui de l'Union européenne. Nous faisons beaucoup d'activités dans le cadre des plaidoyers, les échanges, les récoltes des données, les monitoring des protections pour assainir un peu le terrain.
Assainir le terrain, dans quel sens et qu'est-ce que ça signifie?
Nous cherchons un peu une collaboration entre les défenseurs des droits humains du Maniema et les autorités publiques parce qu'il y a une fissure qui existe entre les défenseurs des droits de l'homme et les autorités publiques qui regardent les défenseurs des droits humains un mauvais œil, qui ne laisse pas ce dernier les champs libres ou l'espace pour faire leurs activités. C'est pour cela que nous les approchons afin que nous puissions assainir le terrain et avoir un climat d'entente pour que nous puissions collaborer pour l'intérêt de la province et l'intérêt de la population.
En quoi est-ce que les autorités provinciales constituent un frein pour le développement de votre métier?
Ils constituent un frein dans le sens que il n'y a pas une étroite collaboration comme je viens de dire. Les défenseurs des droits humains...
Qu'est-ce que les autorités font exactement?
Les défenseurs des droits humains sont victimes des menaces, des morts, des arrestations arbitraires, des menaces et des violations physiques. Ils sont même emprisonnés. Nous avons les cas légion où nous voyons les autorités pour décanter la situation.
Et à ce niveau, M. Mutyanga, quel est l'état de lieu de la situation des acteurs, des défenseurs des droits humains dans la province du Maniema?
Nous dressons un bilan sombre. La carte est noire. Dans la province du Maniema, les défenseurs des droits humains sont maltraités. Il n'y a pas une étroite collaboration. Mais comme nous multiplions les contacts avec les autorités publiques, nous espérons qu'il y aura de l'amélioration parce que les autorités nous promettent un changement.
Alors, les autorités vous promettent un changement à ce sujet. Qu'est-ce que vous suggérerez aux nouveaux dirigeants du pays et même de la province du Maniema?
Aux nouveaux dirigeants du pays, nous suggérons la bonne collaboration avec les défenseurs des droits humains et de mettre en application la loi portant protection et défense et les obligations sur les droits humains. Cette loi a été promulguée par les chefs de l'État, mais n'est pas mise en application, n'est pas respectée à la lettre par certains dirigeants. Au niveau de la province, nous sollicitons aux nouveaux dirigeants de promulguer aussi les dits portant protection des défenseurs des droits humains qui est en souffrance au niveau du gouvernorat parce que ça a déjà été voté au niveau de notre assemblée provinciale. Et aux nouveaux dirigeants, encore une autre recommandation et une bonne collaboration avec les défenseurs des droits humains, ne pas les prendre comme leurs prédécesseurs qui ont trouvé aux défenseurs des droits humains comme ennemis jurés ou les personnes qu'il faut abattre parce que certains collègues ont été victimes des menaces, des morts et même des tortures et même de l'emprisonnement.
C'est-à-dire les défenseurs des droits de l'homme et les autorités provinciales, ce ne sont pas des ennemis, mais surtout des collaborateurs.
Surtout ça, c'est ce que nous voulons. C'est pour cela que nous les approchons à tout moment, afin que nous puissions leur montrer et leur rappeler ce qu'ils ont promis vis-à-vis de la population. C'est là où les bas blessent, madame. Lorsque les autorités font des promesses à la population et qu'ils ne respectent pas toutes ces promesses, lorsque les défenseurs des droits humains leur approchent pour leur demander que vous nous aviez promis que vous allez ouvrir la route qui quitte Kindu vers l'université. On en est où?
Mais M. Mutyanga, vous aussi, les activistes de droits humains, vous avez aussi des failles dans votre travail.
Non, madame. Chez nous, nous sommes là juste les gardiens de coutume. Nous sommes l'œil, le bras et la bouche de la population.
Mais il y a aussi une bonne manière et la façon de dire à l'autorité.
Nous les approchons des fois, ils ne vous reçoivent pas. Vous pouvez arriver dans leur bureau, vous faites un mois sans pouvoir les voir, alors que vous remplissez la fiche d'audience. Alors qu'ils savent que nous venons pour traiter avec eux les histoires très importantes qui concernent le développement de la province et du pays.
Et s'ils ne vous reçoivent pas, là, vous vous constituez maintenant un petit roi, vous êtes en train de crier par-ci, par-là.
Ce n'est pas comme ça, madame. Nous avons plusieurs canaux, nous avons plusieurs outils à utiliser pour faire passer notre message.
Monsieur Raphaël Mutyanga Kalume, merci.
C'est à moi de vous remercier, chère madame journaliste.
Notre invité, Raphaël Mouchanga Kaloumé, répondait aux questions de Florence Kizalunga depuis la ville de Kindu, province du Maniema. Par ici, nous mettons un terme à ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Jude Mister Bilanda. Merci à Debs Vita qui a assuré la mise en onde, ainsi qu'à vous tous qui nous avez suivis. Vous avez la possibilité de réécouter ce journal sur www.radiokapi.net.